Les nuits de France Culture, la nuit rêvée de Viviane Amy. Rebonjour Viviane Amy, rebonsoir.
Rebonjour, rebonsoir.
Alors je m'attendais à vous rencontrer au cours de cette nuit, vous voir arriver tout de rouge vêtu. Je vous vois en bleu, enfin c'est très bien aussi, mais parce que le rouge des couvertures de votre maison d'édition, il est quand même très particulier, très visible de loin, ce qui est une bonne idée.
Si j'avais du rouge là.
Oui, vous avez un petit peu de rouge comme ça, mais c'est pas suffisant pour moi. Je pensais, je vous dis, du rouge et au milieu, voilà,
C'est un hommage à Snadal. Si vous voulez, quand j'ai créé la maison d'édition en 1990, j'ai réfléchi. L'histoire de l'édition est quelque chose qui m'importe beaucoup. Et l'édition était quand même très 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 marquée par la collection blanche Gallimard. Et pendant toutes mes 10 années d'expérimentation chez les autres éditeurs, c'était toujours « Ah, la blanche ». J'en avais marre. Dieu sait que Gallimard est important pour moi. Mais entre-temps, bon, après la Seconde Guerre, pendant la guerre, il y a eu les éditions Minuit. Donc la maquette est blanche avec une petite étoile. Donc elle porte son histoire comme la maquette de Gallimard porte son histoire. Elle a été créée au début du XXe siècle, comme les éditions de Minuit ont créé cette maquette extrêmement sobre, parce que justement ici de la résistance et l'étoile et toute la dimension symbolique de l'étoile est très importante. Et puis il y a eu ensuite Jean-Jacques Pauvert, des éditeurs. Après dans les années 80 il y a l'édition Actes Sud. Alors c'était la couverture pleine page. Couverture couleur pastel. Et je me suis dit, dans les années 90, une maison d'édition s'inscrit dans son temps. Donc et puis bon, encore une fois, je suis quand même d'une prétention phénoménale. Je pense que la couverture, une couverture, c'est quelque chose d'extrêmement important. Moi, être éditeur, c'est pour être lu dans 150 000 ans. Hein. C'est évident, dans des milliers et des millions de millénaires. Vous voyez, ça ne s'arrête pas là. Et donc, je me suis dit, je suis
vous
pas...
Vous serez encore en podcast, non, 150 000.
Oui, je ne sais pas, mais enfin... J'espère. Si. Je ne demande que ça. Et si vous voulez...
Alors le rouge.
Le rouge...
Et pas n'importe quel rouge. Comment le qualifier, ce rouge? C'est un détail, on va me dire.
Un rouge framboise. Non, c'est très important.
De couverture,
c'est un rouge framboise parce qu'il y a le rouge vermillon. Un rouge carmin, framboise, une toute petite pointe de bleu, plus de bleu. Et surtout, je veux
du
dire,
bleu
quand
dans
j'ai créé.
Le rouge, je ne vois pas, mais.
Il y a une petite pointe de bleu. Ah bon. Voilà, c'est une couleur Pantone. C'est-à-dire que, d'un point de vue technique, ce sont des couleurs, c'est pas une bichromie, c'est une couleur que l'on obtient directement sur la machine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux passages.
En chrome.
Et donc, c'est un mélange qui est fait au départ.
C'est important hein, pour les lecteurs déjà, parce que si on apprécie un livre publié chez Viviane Amy, on peut ne pas l'apprécier, hein, attention.
Ah bah, j'espère bien.
Eh bien, quand ils sont placés horizontalement chez un libraire, on voit de loin un livre publié chez vous.
Vous savez, ça a été quand j'ai créé la maison d'édition en 90, puisque bon, maintenant les livres sont rouge et noir ou noir. Et au début, les livres étaient de couleurs vives, différentes en fonction des langues traduites. C'est-à-dire qu'il y avait des verts pommes, c'était les Italiens, des jaunes vifs, qui étaient les Espagnols, des bleus foncés, bleu outre-mer, c'était les Hongrois. Et il n'y avait pas d'illustration, absolument aucune illustration. C'est-à-dire qu'il y avait ce que j'appelle le cartouche central, qui était en fait une bibliothèque. C'était une succession d'étagères, si vous voulez, avec l'éditeur qui portait la bibliothèque, les livres, et au-dessus, le nom de l'auteur. Ça a été vraiment un gros travail. J'avais choisi la couleur pour attirer. Je n'avais pas d'argent. Les illustrations, je ne suis pas bonne en illustration, bon, j'ai un peu appris. Mais si vous voulez, le choc a été très, très, très violent. La première personne que j'ai rencontrée à l'époque, c'était Bertrand Poirot d'Alpech. J'étais allée le voir au Monde. Il avait encore son...
Feuilleton.
Non, il l'avait abandonné depuis peu. Je ne l'avais jamais rencontré. Je suis arrivée avec mes trois petits livres, n'est-ce pas, serrés contre mon cœur. Un jaune, un bleu, un rouge. Alors le rouge, c'était la seule couleur que j'avais déterminée parce que c'était pour la littérature française, c'était un hommage à Stendhal. Bon. Stendhal est pour moi... Voilà.
Vous ne l'avez pas choisi dans votre nuit rêvée, Viviane Amy, pour autant.
Ah, écoutez, mais bon, si vous m'aviez donné 1001 nuits rêvées, peut-être. Je ne peux pas tout faire, on est obligé de faire des choix et c'est ce qui fait la condition, la dure condition humaine.
Donc Bertrand Poirot d'Alpech.
Bertrand Poirot d'Alpech, je vais vers lui pour lui présenter, pour lui montrer mes livres, lui demander ce qu'il en pense. Alors, du haut de sa grande taille, il me dit « Maman, c'est pas mal, mais c'est vrai que la littérature, c'est blanc. Regardez la collection blanche, Gallimard. » Paf, je me suis dit « Ça y est, j'ai gagné. J'ai gagné. » Je savais que ça allait être très... Ça a été très, très violent, parce qu'encore bon. Parce que, dans l'édition, il y a des couleurs qui ne marchent pas. Bon, moi, une des choses qu'on m'a dit le plus au cours de ces années, en tout cas les premières années, c'est « Ah, mais ça ne s'est jamais fait. » J'ai dit « Ah bon, si ça ne s'est pas fait, peut-être qu'il faut essayer de faire et de voir si il faut le faire quand même, peut-être de manière différente. » Donc c'est vrai que, et au bout de 10 ans, d'abord il y a eu le changement, c'est-à-dire qu'au bout de 2-3 ans, j'ai admis que peut-être il fallait aider un peu les lecteurs, donc j'ai introduit l'illustration, la photo noir et blanc. Exclusivement noir et blanc parce qu'il me semblait que le caractère, déjà le fait, simple fait que la couleur vive ait fait tant scandale et eu tant de réactions positives et négatives, je me suis dit, ça signifie quelque chose, c'est-à-dire que c'est une personnalité forte. Et donc, il y a eu petit à petit l'introduction de l'illustration, de la photo noir et blanc. J'ai essayé quelques illustrations, mais ce n'était pas ça. Donc, c'est vraiment maintenant la photo noir et blanc, et jusqu'à maintenant, et j'ai bien l'intention de poursuivre. Et au bout de 10-12 ans, c'était d'ailleurs avec le premier livre, c'était en 2003, que le premier livre étranger, 2003, c'est l'année où Magda Szabó a eu le prix Femina, un auteur hongrois, c'est le premier livre de littérature traduite qui est paru sous la couverture rouge. Si on avait poursuivi cette déclinaison de couleurs vives, il aurait été publié sous une couverture bleue.
Alors il y a des couleurs interdites, on sait au théâtre par exemple, le vert je crois. Ouais. En tout cas ça ne nous a pas empêché, et les couvertures sont rouges. Mais on ne parle pas de vert sur un théâtre paraît-il, enfin on
oui,
ne porte
y a comme
pas.
Ça, des,
vous avez choisi, c'était histoire d'arriver aux archives, hein, Viviane Ami, c'est histoire d'annoncer la conférence de Boston de Louis Jouvet consacrée, qui a pour titre de Molière à Giraudoux, diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale en 1962. Mais on sait que Jouvet est mort en 1951 et que cette conférence avait été donné d'ailleurs quelques mois avant sa mort. Alors, Louis Jouvet, ensuite une nouvelle, L'Ange du Bizarre d'Edgar Poe, traduite évidemment par Baudelaire, donc, que vous avez cité dans la première partie de notre entretien, Viviane Ami. Une émission d'Alain Weinstein du jour au lendemain qui recevait François Valéjo pour Madame Angelozzo, c'était en 2002, et puis on terminera par le journal de Robert Musil qui était publié en 1982, et Dominique Arban en parlait avec Bernard Dort sur France Culture. On commence dans l'ordre, et puis après vous nous parlerez d'autres écrivains que vous publiez, que vous aimez, que vous défendez, que vous avez publié en 2017, et ce que vous allez publier, qui vient de sortir du reste, le roman de Céline Laperto, Ne préfère pas le sang à l'eau. Ah oui. Alors, mais écoutez, Louis Jouvet d'abord.
Bon, j'adore le théâtre, je vous l'ai dit au début, pour moi l'édition est un théâtre, je dirais même presque que c'est un peu le théâtre de la cruauté, bon, je veux dire... mais c'est vrai qu'en plus, je m'en rends compte là, tout à l'heure je vous parlais du livre d'Alexis Ragugno,
Nils,
le théâtre est au cœur de ce livre, et notamment il fait une sorte d'historique des comportements des comédiens, des écrivains au cours de la Seconde Guerre mondiale, et Jouvet, qui pour les deux amis était quelqu'un de très... Bon, prépondérant, il intervient dans le roman puisque Nils va l'écouter parler à son retour d'Amérique du Sud. Et Nils est tout d'un coup se rend compte qu'en fin de compte, le théâtre dans cette période si troublée où le réel est si présent, est-ce que Jouvet a toujours la même importance pour lui qu'il l'avait avant-guerre. Et c'est une scène extraordinaire. Et c'est vrai que...
De déception un peu.
Une déception par rapport à lui-même aussi. Une déception par rapport à l'homme, et non pas par rapport à l'acteur.
Oui, enfin, qui n'a rien à voir avec les autres hommes de théâtre qui, eux, ont collaboré
ont
fréquenté les Allemands pendant toute la guerre.
Et c'est vrai que...
ce qui n'est pas le cas de Jouvet, évidemment, qui n'était pas en France.
Qui n'était pas en France. Mais encore une fois, est-ce qu'il s'était mis en retrait, il s'était éloigné? Et c'est assez intéressant parce que, bon, Jouvet a joué Knock, je ne sais pas comment on dit. Et dernièrement, il y avait le film adapté d'après la pièce, que je n'ai pas vu d'ailleurs, mais c'était assez intéressant. J'ai lu des critiques où on disait que toute la dimension politique de la pièce de Romain était assez éliminée. Et Le théâtre, pour moi, c'est quelque chose d'éminemment politique. C'est inscrit dans la cité très, 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 très fort. Bon, moi, je veux dire, j'ai fait mes classes, si j'ose dire, j'avais une vingtaine d'années. Je suis allée voir Beckett, toutes ces pièces, si vous voulez, le théâtre de l'Europe. La façon dont le théâtre, dont la scène de théâtre a évolué. Je sais que quand je suis allée voir à l'Opéra Comique, et ça remonte à très longtemps, Einstein on the Beach avait été, je suis restée mais complètement de la même façon, le théâtre de l'Europe avec
Strehler.
Avec Strehler, oui, j'ai vu la tempête de Strehler. Je crois que je m'en suis jamais remise. Mais si vous voulez, même toutes ces expériences de théâtre dans la salle, c'est-à-dire ça correspond totalement pour moi le théâtre, on a une scène intime sur laquelle toutes les personnes, vous-même, vous jouez, et puis de temps en temps vous tapez sur les doigts des personnages pour dire dites donc qu'est-ce que tu fais là, est-ce que tu dois y être.
Est-ce que vous parlez au personnage de Edgar Allan Poe?
Ah oui.
L'Ange du Bizarre sera la nouvelle que l'on va entendre, lue par Pierre Michael.
Alors, L'Ange du Bizarre, c'est vrai que, encore une fois, je parle de Baudelaire et d'Edgar Poe. Quand j'avais 11 ans, on m'a offert un prix. On m'a offert des livres. Là aussi, encore une fois, la façon dont ça s'imprime, il y avait trois nouvelles d'Edgar Poe, dont Le Puits et le Pendule, 11 ans. C'est là où je me dis, mon Dieu, mais à l'époque, il n'y avait pas des trucs sociologiques. Enfin, en tout cas, et Le Puits et le Pendule m'a complètement traumatisée, enthousiasmée. Cette vision de cet homme enfermé dans un puits avec des rats qui lui montent dessus pour ronger les liens qui le tiennent. Et puis ce pendule qui descend petit à petit. Et en plus, c'était Baudelaire, c'est la langue de Baudelaire que j'ai retrouvée de nombreuses années plus tard, enfin 7-8 ans plus tard, je ne sais plus en quelle classe, où mon professeur de français prier tous les soirs parce que Baudelaire était mort d'une maladie honteuse. Je m'en souviens, ça m'avait littéralement sidéré.
Le professeur vous le disait?
L'avait dit, non pas à moi, mais en classe, elle dit que voilà, on étudiait Baudelaire parce que c'était dans le programme, mais qu'en fait tous les soirs elle priait pour Baudelaire parce qu'il était mort d'une maladie honteuse. Ce qui est quand même très très bizarre.
Elle ne vous parlait pas de Rimbaud et de Verlaine?
Ah ben non, ça c'était. Mais je sais pas, c'était. Je pense pas avoir inventé ça, mais ça m'avait tellement sidéré que... Bon, elle était croyante, et puis bon, elle avait la foi. Et puis le malheureux Baudelaire, un siècle après, elle se portait garante de son âme. Enfin, ça, voilà, je veux dire, c'est une espèce de voilà, c'est mon cirque ou mon théâtre personnel qui fait que bon, j'ai des mémoires des situations et des sensations.
Vous avez évidemment la mémoire du roman de François Valéjo, pour lequel il était invité chez Alain Weinstein dans Du jour au lendemain.
Madame Angelozzo. Ô combien.
Aussi une découverte de Viviane, oui. Ami, éditrice.
François Valéjo, je l'ai publié pour la première fois en 1998. Et pour moi, être éditeur, éditrice, l'ambivalence, voilà, en utilisant l'ambivalence.
Éditrice.
C'est découvrir des auteurs français, c'est encore une fois découvrir les auteurs de demain. J'ai pas diminué ni mon orgueil ni ma prétention, assumons-le jusqu'au bout, au moins que ce soit dans la pompe et dans le grandiose. J'ai reçu Vacarme dans la salle de bal en 1998. Bon, j'étais toute jeune éditrice. J'avais déjà reçu des manuscrits par la poste, mais là j'ai vraiment eu un sentiment que quelque chose se passait. Vacarme dans la salle de bal, c'est encore le corps et l'esprit, c'est celui qui danse et celui qui pense la danse. Et puis, il y a eu un autre roman qui est paru de François Valéjo, Pirouette dans les ténèbres, et Madame Angelozzo. Et alors là, le grand moment, c'est que je crois que je suis devenue éditrice là. Je lis ce livre, qui est encore une fois un livre sur la mémoire, c'est-à-dire que Madame Angelozzo est morte dans des circonstances épouvantables, puisque elle vivait dans sa quatrelle, et sa quatrelle, dans laquelle elle vivait depuis 15 ans, on l'apprend après, a été percutée par un train qui transportait le Dalai Lama à travers l'Europe. Et donc, effectivement, cette dame qui était tombée dans un oubli total est mise à la une des journaux. Et le livre commence, c'est un policier qui vient annoncer à son fils, Angelino Angeloso, que sa mère est morte. Et dans un premier temps, le livre se déroulait sur 3 jours, encore une fois, les 3 jours qui séparaient la nouvelle de la mort et l'enterrement. Et les 3 personnages, c'était le fils de Madame Angeloso et c'était 3 clients de Madame Angeloso parce que Madame Angeloso tenait un hôtel dans le nord de la France.
Et cuisinait.
Et cuisinait, absolument. Madame Angeloso était une femme très ample, assez fascinante, perclue de doutes et de... Et dans un premier temps, ces trois clients parlaient de Madame Angeloso et je me suis dit, mais pourquoi 3? Pourquoi 3? Puisqu'en fin de compte, la perspective est la même, ce sont 3 clients. Et donc le discours, enfin les souvenirs, les réminiscences étaient quand même assez proches. Et donc aller dire ça à un auteur, débutant certes, mais pour qui vous avez une grande admiration. Donc c'était vraiment, vraiment très, très compliqué. Et François, au bout d'un mois, on avait commencé à travailler, on se connaissait un peu, François m'appelle, Viviane, et alors là, le disque se met en route et je commence à parler. Je lui dis, au téléphone, parce que François habite au Havre, des tas de choses. Tout ce qui me vient à l'esprit, je ne prépare jamais ce que je dis aux auteurs. C'est le théâtre et l'improvisation. Et donc, bon. Et François, pendant je sais pas, une bonne heure, ne dit rien. Qu'est-ce que j'ai fait?
Il a peut-être quitté le téléphone.
Oui,
non enfin,
peut-être
vous
le téléphone.
Vous êtes sûr qu'il était encore au téléphone?
Et puis bon. Je lui dis bon, il dit rien. Et puis bon, merci Viviane. Moi, je suis quand même terrifiée. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas ce que j'ai dit.
Mais c'est votre rôle aussi. Vous êtes éditrice.
Oui, oui, c'était mon rôle. Mais enfin, je veux dire, c'était la première fois que j'étais aussi d'abord au téléphone et aussi en roue libre, si vous voulez, et que ça a duré longtemps. J'avais travaillé avec des auteurs. Mais c'était beaucoup plus technique, beaucoup plus. Là, c'était vraiment. Je ne savais même pas que j'allais lui dire ça, puisque c'est lui qui m'a appelée. Je n'avais même pas préparé. Et quelques 2 mois, 1 mois plus tard, François me téléphone, il me dit « Viviane, voilà, j'ai retravaillé, j'ai besoin de vous lire parce que je n'ai pas de vous lire ce que j'ai fait pour avoir votre écho. » Il vient à Paris et il me lit les 60 premières pages. Et tout d'un coup, il avait fait monter, il avait conservé un des personnages, c'est-à-dire le client qui était amoureux de Madame Angeloso, il avait fait monter en puissance 2 personnages secondaires qui étaient le fils de Madame Angeloso et je ne me souviens plus d'une Vera, enfin une femme polonaise, une nièce qui était femme de chambre dans l'hôtel de Madame Angeloso. Et tout d'un coup, cette perspective, ce regard multiple a été... tout d'un coup, je me suis dit, voilà, je ne sais pas ce que je lui ai dit, mais c'était ce qu'il fallait que je lui dise. Et d'une certaine façon, cet arcane que j'ai franchi avec François, puisqu'après ça, il m'a dit, Viviane, vous me dites tout ce que vous pensez, même si c'est douloureux, difficile, personnel, privé, etc. Ça a rejoint, si vous voulez, quand j'ai reçu le premier livre de François, donc Vacarme dans la salle de bal, où j'avais réussi à faire dire à François, quand je l'avais rencontré pour la première fois, qu'en fait, il n'aimait pas du tout danser, mais que son père dansait très bien. Voilà, pour moi, être éditrice, en tout cas lectrice, c'est non pas publier des chefs-d'œuvre, mais d'abord sentir une nécessité dans un texte, la nécessité de celui qui l'écrit, c'est-à-dire qui... C'est vrai que quand je publie un auteur, j'espère une œuvre, encore une fois, c'est... Et donc, je sais que je sens que je vais pouvoir défendre ce livre parce que c'est comme s'il jouait du violon. Si moi-même je jouais avec mon propre violon, mais à partir d'un violon qui n'est pas le mien. Et c'est voilà, tout ça c'est très symbolique, c'est très imagé, c'est mais c'est vrai que Madame Angeloso a été le livre qui m'a, pour moi, m'a fait être éditrice.
Mais il y a un moment donné, peut-être qu'une éditrice freine un petit peu sa critique parce qu'à peur de froisser un auteur qui peut aller ailleurs, qui peut...
Et c'est là où, encore une fois, parce que...
Ça arrive toutes les maisons d'édition.
Oui, ben même dans la maison d'édition, mais je n'ai jamais diminué mes critiques. D'abord, il y a un principe, je ne signe pas de contrat avant d'avoir lu le manuscrit. C'est un risque... Je veux dire, la maison d'édition est une histoire avec moi et le monde, mais avec moi et moi. Il y a il y a quelque chose qui... Je vous parle beaucoup de mon enfance ou de moi à 20 ans. Le dédoublement est quelque chose que je connais bien. Et c'est vrai que dans mes nuits, rêvées ou pas, je dialogue beaucoup avec moi-même et en particulier avec ce métier où je suis aussi chef d'entreprise et où je crois, même si je suis d'un orgueil et d'une prétention, mais l'orgueil pour moi est très 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 lié à l'humilité. En fait, c'est le livre pour moi, c'est la chose la plus humble qui soit. On le tient entre ses mains. C'est moi. Les deux tâches fondamentales qui sont les miennes, c'est la lecture, le travail avec les auteurs et la fabrication. C'est moi qui m'occupe. Cette partie-là, c'est vraiment, vraiment... Je peux y passer des jours. J'ai travaillé, j'adore aller à l'imprimerie, j'adore l'odeur de l'encre. J'ai travaillé avec l'imprimerie Flock dès le départ. En plus, là, quand je travaillais dans d'autres maisons d'édition, j'entendais toujours le nom d'une Madame Baillet de l'imprimerie Flock. Bon, je ne travaillais pas dans le service de fabrication. Et quand j'ai décidé de créer la maison d'édition, je me dis, il faut que j'aille à l'imprimerie Flock. C'est vrai que c'est un temps passé puisque Flock était un éditeur indépendant. J'ai rencontré François Flock, c'était la troisième génération d'imprimeurs. C'était un homme exceptionnel qui avait une passion comme moi je peux avoir une passion pour ce métier qui n'était pas un métier transmis. Il connaissait son imprimerie, ses machines de manière extraordinaire. Et puis bon, ça fait maintenant 2 ans que l'imprimerie Flock a été rachetée et qu'elle n'est plus indépendante. C'est aussi un élément, la technique qui intervient de plus en plus, le marketing qui intervient de plus en plus dans l'édition, pour les livres. Des livres, on en a vendu 300 000 exemplaires, c'est pas parce qu'on a vendu 300 000 exemplaires que c'est bien. Ce que j'ai toujours dit aux auteurs...
Ça aide, une maison d'édition. Quand même.
Ça aide, oui, mais je veux dire, le réel. Mais si vous voulez, j'ai dit d'une certaine façon, pour moi, la magie doit me permettre de travailler, de pétrir le réel, et le réel doit me permettre de toujours laisser libre accès à la magie. Je dis toujours aux auteurs, si on vend 300 exemplaires de votre livre, c'est magique, la magie est là. Par contre, d'un point de vue économique, donc dans le réel, ce n'est pas suffisant. Donc on va tout faire pour en vendre plus. Mais il faut que je croie suffisamment à la magie du livre que j'ai lu et que je veux défendre pour me confronter au réel.
Alors vous avez cru certainement dans un roman de Cécile Coulon, 3 saisons d'orage, publié l'an dernier, qui a eu le prix des libraires.
Prix des libraires,
2017. Parlons-en très brièvement, parce qu'il faut aussi qu'on parle de
oui,
l'actualité 2018, début 2018.
Écoutez,
ne préfère pas le sang à l'eau, un roman de Céline Lapertot.
Là aussi, ce livre de Cécile Coulon m'a énormément touchée parce qu'il se passe sur 3 générations et qu'une jeune fille, une jeune femme de 27 ans, 26 ans, se lance comme ça. Elle a une relation très très forte à la terre. Elle est née à Clermont-Ferrand. Elle court dans ces montagnes, sur les volcans. Et quand je l'ai rencontrée, elle était malheureuse parce que la maison de son enfance avait été vendue pour des raisons. Et c'est vrai que les 2 premières années, elle était déchirée, je veux dire, de voir une jeune femme comme ça de 20 ans, alors pour moi qui n'ai pas de maison, qui n'est pas... De voir combien...
Maison d'édition,
c'est aussi terrible. Mais c'est une maison dans ma tête. Mais cette maison, une maison où on pose les pieds, où on entre dans une maison, en sachant que... des tas de gens avant vous y ont posé les pieds, de franchir le seuil. J'ai eu vraiment cette jeune fille, qui m'a impressionnée dans cette douleur-là, si vous voulez. Et elle avait un talent prodigieux. Elle avait commencé à écrire très tôt. Et j'ai publié 4 de ses livres, et c'est le 5e que je publie. Et là, pour moi, avec ce livre-là, j'ai l'impression qu'elle a trouvé l'ampleur. Elle a une capacité à créer des personnages, les dialogues. Elle a été nourrie de littérature américaine, mais également de cinéma. J'ai découvert d'ailleurs qu'on apprenait le cinéma au lycée, ce qui est... Et elle a une vision panoramique. Et même si elle a parfois, par exemple, pour ne pas... Ce que beaucoup, le travail que j'ai fait, c'était pour éviter les... Comment on appelle les par exemple, quand il y avait une pizzeria en 1945, comment, les anachronismes. l'érotisme. Même si, donc elle a fait en sorte que le livre devienne plus un conte de façon à ne pas avoir à maîtriser cette chronologie-là, elle perçoit l'âme des époques de manière assez étonnante. Et d'une certaine façon, c'est comme si elle avait 100 ans. J'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans. Et elle a ce besoin de remonter dans le temps qui la constitue, alors qu'elle est très inscrite dans notre époque, tatouage, Walkman, enfin pas Walkman, enfin je sais pas quoi, les trucs sur les oreilles. Elle est très avec en même temps ce besoin de lire et de retourner dans le passé.
Alors, ce qui est sur, certainement votre besoin, Viviane Ami, enfin votre envie, ce qui vous fait vivre, ce qui vous fait, voilà, c'est le passé, le souvenir, la mémoire.
La mémoire en mouvement, fût-elle la mémoire
des autres.
Oui.
C'est pas un roman de la mémoire, ce que vous venez de publier de Céline Laperteau ne préfère pas le sang à l'eau.
La mémoire de l'eau. Oui. La mémoire de l'eau, la mémoire de la terre. Ah non, la mémoire est très...
roman très contemporain.
Très contemporain, mais justement...
Racontez-le.
Il se trouve que Céline, à la différence de Cécile Laperteau... Céline Laperteau est arrivée au livre par l'école. Elle a lu les livres de l'école, elle a une passion pour le théâtre, pour Racine en particulier, et il y a une sorte, c'est une sorte de livre un peu incantation où une population de 300 personnes va quitter sa terre qui est complètement sèche, desséchée, qui est le paradis sur terre, sauf il n'y a. Il manque l'eau, qui est l'élément de survie pour la terre, pour les plantes et pour les hommes. Et donc, ils vont aller vers Carmandois, qui est une cité qui a pour spécificité d'avoir une citerne gigantesque. Et donc, l'eau, ce bien qui n'a pas de prix, peut être distribuée sans retenue. Donc déjà l'eau c'est la pluie, c'est au cœur de toutes les civilisations primitives. Il y avait le dieu de la pluie,
tout simplement,
de la vie.
Mais il y a le soleil aussi.
Et il y a le soleil. Et donc ils arrivent à Carmandua. Alors dans un premier temps, ils sont parfaitement intégrés, ils ont des amis.
Les nez verts,
donc
nez-vert.
C'est assez, vous disiez que le vert n'était pas bien au théâtre, donc probablement c'est pour ça inconsciemment qu'elle a utilisé le vert. Et puis petit à petit, les personnages grandissent, ils ont leur mère, et puis il y a un moment où on sent des tiraillements, c'est-à-dire politiquement les choses bougent, il commence à y avoir des restrictions d'eau, et on commence à dire « Ah oui, mais ce sont les nez-verts qui nous prennent notre eau ». Et il y a petit à petit des familles qui vont se déployer. Et en particulier, une famille, la mère est une femme tout à fait exceptionnelle, elle en parle comme d'une Cassandre, et qui va apprendre à son fils, qu'on va découvrir au début sous l'initiale T.
T.
T, qui est... Elle lui a appris la littérature, elle lui a murmuré le soir à l'oreille des poèmes, des phrases, des textes. Et ce T, dont on va apprendre par la suite qu'il s'appelle Thiego, eh bien va, pour avoir accès à sa vie d'homme, pour oser alors qu'il a peur, il va aller taguer sur
une
mur.
Avec
la craie, pardon, oui. Il va dessiner plutôt que taguer. Mais c'est le terme taguer. Et avec de la craie, il va dessiner, visiblement. En plus, c'est extrêmement intéressant parce que la craie joue un rôle symbolique très, très, très fort, puisque le personnage va être en prison par la suite. Et on va lui donner de la craie pour qu'il puisse écrire aussi sur les murs de la prison. Il va écrire des poèmes. Il va, la première chose qu'il va écrire, c'est un vers. Liberté, j'écris ton nom.
Oui, parce que c'est dans un pays imaginaire, mais les références françaises sont très nombreuses.
Les références sont très nombreuses, françaises. Et puis, en fait, c'est un lieu imaginaire. Effectivement, il va y avoir un despote qui va intervenir. L'aîné vert, toute personne qui va revendiquer sa liberté, va être emprisonnée dans cette prison. Et il se trouve que les gens qui ont construit la prison sont les mêmes qui ont construit la citerne. Et il va y avoir une transmission comme ça par le biais de Thiego, à Tristan et à un troisième jeune homme. C'est cet apprentissage de la liberté, cet apprentissage de la parole. La liberté, c'est aussi la parole, mais ils sont en prison et à un certain moment, il va y avoir une révolte à l'intérieur de la prison et la parole n'est pas suffisante. Qu'est-ce que c'est ? Ça rejoint un peu le livre Nils. Dont nous parlions tout à l'heure, Nils. C'est la parole et l'action.
Et la traîtrise.
Et la traîtrise. Et en même temps, dans ce livre-là, la traîtrise, tout ami est aussi un traître, mais il revient. Il est toujours resté un ami, même s'il a lâché à un certain moment, lui a fait lâcher prise. Et d'une certaine façon, il y a la rédemption de l'ami qui va donner sa vie pour celui qui écrit.
Là, vous en dites trop déjà, Viviane Ami. On est déjà quasiment à la fin du roman.
Non. Il y a une dimension symbolique, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance parce qu'il y a cette mélopée c'est comme si, quand le livre commence, ils étaient 300 épaules qui se sont relevées pour aller vers l'eau. Et il y a une petite fille qui est une symbole, Carole.
600 épaules alors.
Sur ses épaules, 300. Oui, mais comme elles sont petites, ça fait bon. Qui va être le symbole de cette lutte et de cette vie toujours recommencée, puisqu'on va la retrouver à la fin du livre et on va s'adresser à elle, même si elle n'est plus là pour des raisons diverses. Ce livre-là, c'est le troisième de Céline Lapertot que je publie. J'ai reçu son manuscrit en même temps que le premier manuscrit d'Alexis Ragugno. C'était une période où je croyais, j'avais beaucoup de problèmes dans la maison d'édition, je me demandais si j'étais encore capable de poursuivre, parce que c'est très 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 lourd, hein. Je veux dire, le chef d'entreprise, c'est épouvantable. Être responsable des autres, c'est très très lourd, mais c'est aussi pour ça que je l'ai fait. Quand j'ai reçu son premier livre qui s'appelle « Et je prendrai tout ce qu'il y a à prendre », l'appel à l'autre qui se manifestait dans ce livre et qui se retrouve dans tous ces livres, c'était bon. Céline Lapertot a une vie, on parle beaucoup de la violence faite aux femmes, visiblement elle a vécu des choses extrêmement difficiles, mais elle a pris le parti de les transcender par la littérature et elle n'en parle pas à la première personne. Et là, ce qui m'a fait ces deux premiers livres, s'appelle « Et je prendrai tout ce qu'il y a à prendre » et ensuite « Des femmes qui dansent tous les bombes » qui se passaient en Afrique, puisqu'elle s'intéresse beaucoup à l'Afrique. Et bien avec ce troisième livre-là, ce qui m'a fait infiniment plaisir, c'est qu'elle a dépassé la violence faite aux femmes, c'est la violence faite à l'homme, faite à l'humain et à sa liberté et à sa liberté de choix en particulier. Et elle prend, alors que c'est un livre court, mais il y a cette espèce d'innocence, de naïveté portée par une langue qui fait que, je ne veux pas dire c'est l'Odyssée ou l'Iliade, mais il y a quelque chose d'antique, si vous voulez, dans ce cœur.
Les titres aussi, parce qu'il y a des intertitres, enfin des titres de chapitres.
Et d'ailleurs...
On est à la fois dans les proverbes chrétiens, et puis on a parfois l'impression, le titre, ça pourrait être celui d'un chapitre du Tour de la France par deux enfants.
Voilà, c'est exactement ça. Et Céline... Ah, c'est ce qui me plaît beaucoup par rapport à Cécile, qui elle est beaucoup plus rouée, si j'ose dire. Et Céline Lapertot a une sorte de naïveté, mais qui à aucun moment n'entache, si vous voulez, son écriture. Son écriture s'envole complètement.
Alors, votre nuit rêvée se poursuit, Viviane Ami. Elle se poursuit donc... Avec Jouvet, elle se poursuit avec Edgar Poe, l'ange du bizarre, avec François Valéjot. Et puis, elle se terminera par le journal de Robert Musil, dont vous avez pas parlé, mais en trois secondes, pourquoi
écoutez, Robert Musil, encore une fois, c'est des lectures comme ça que j'ai... Comme pour Tarkovski, vous savez, c'est un éternel recommencement. C'est un livre que j'ai lu quand j'avais une vingtaine d'années, qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. Mais bon, c'est un livre tellement vaste, tellement ample, que j'ai toujours voulu le relire. Et dernièrement...
Le journal ou...
L'homme sans qualité, excusez-moi. L'homme sans qualité, oui. L'homme sans qualité de Musil. J'ai lu, j'avais une vingtaine d'années, j'étais en droit. Et c'était vraiment un livre qui, avec des passages, alors je me souvenais le passage sur les bibliothèques, le personnage qui va en bibliothèque pour convaincu que la bibliothécaire a lu tous les livres qui est dans sa bibliothèque, elle lui dit « mais non, il y a des fiches ». Et puis, en particulier, je m'en souvenais, et je pensais que cette mémoire était fausse, en particulier, dans l'édition, on parle beaucoup, les éditeurs ont des écuries, des poulains, des machins, c'est une... une métaphore qui me gêne beaucoup. J'adore les chevaux, c'est la liberté absolue. Mais bon, moi, les êtres humains ont une conscience, ils écrivent. Donc, et puis je me suis souvenue que dans L'homme sans qualité, il décidait d'être sans qualité, personnage, décide d'être sans qualité le jour où il lit dans le journal qu'un un cheval de course est génial. Et c'est... voilà.
Voilà, eh ben, on continue, on se retrouve en fin de nuit, Viviane Ami, et puis on rappellera tous les titres des romans publiés en 2017, pas tous, non, et puis ceux qui sortent dans votre maison d'édition, dont les couvertures sont d'un très beau rouge.